Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouli.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
La radio, outil de dialogue, de paix et de tolérance, politique et religion sont-elles compatibles? Menaka, le retour des Fama Ndérabukane après 7 ans, va-t-il changer quelque chose? Ce sont les principaux sujets du grand dialogue du Forum de la presse de ce soir et nos invités sont Makan Kone de la Nouvelle Libération, Jakari Diayossi de l'Espérance et Mohamed Ag Issa Feitan de la radio Adar de Menaka, tous journalistes. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
D'abord, nous allons parler de la journée de la radio, célébrée le 13 février. Et le thème cette année, c'était la radio, outil de dialogue de paix et de tolérance. Makan Kone, plus de 400 radios au Mali. L'impact est-il positif ou négatif?
Moi, je crois qu'il faut. D'abord, il faut toujours positiver un peu. Et ici, au Mali, la radio est pratiquement associée à l'avènement même de la démocratie et tout et tout. Et puis, quand on parle de radio, on pense également à nos parents de la campagne. Chacun écoute sa radio. En tout cas, un outil de communication relativement très, très efficace. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le nombre de radios et tout, je crois que ça, c'est un autre débat. Mais je me dis, on a gagné la bataille de la quantité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin aussi de la qualité. Cela dit, il faut quand même féliciter, encourager et saluer vraiment sérieusement tous les animateurs de radio, les journalistes et toutes les radios, c'est qu'elles font le travail qu'elles font dans le cadre de la sensibilisation déjà par rapport à la démocratie. Maintenant, pour le nombre, je crois qu'on peut en parler longuement.
D'accord. Mohamed Aguissa Feitan, vous êtes à Menaka, dans une zone qui est un peu en insécurité également. Il y a une radio là-bas sur place. Est-ce que l'impact de la radio est apprécié ou pas par les populations?
Oui, d'abord, merci. Et je ne vais pas quand même répondre à ta question sans remercier Studio Tamani pour ce qu'il entend de faire dans le cadre de la paix. Et remercie Dieu pour m'avoir mis aujourd'hui devant des éminents journalistes, comme vous connaissez, pour parler et poser sur cet aspect. Donc, si je comprends votre question, vous me demandez quel est l'apport de la radio pour mettre fin à la sécurité et peut-être amener la paix, n'est-ce pas, chez nous. Bien entendu, si je prends un exemple, il y a de cela un peu une vingtaine d'années, pour faire venir quelqu'un à 15 km de Menaka, c'était une gymnastique à faire. Aujourd'hui, grâce aux médias qu'on a, aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre un rack ou bien de convoquer une réunion 3 jours avant. Il suffit seulement de passer de communiquer à la radio. Dans les environs 70 km, 80 km, le lendemain, la personne est là. Ça, c'est un. Nous deux, vous savez, chez nous, nous sommes dans un lieu en majorité analphabète. Les gens, il y a des choses qu'ils n'apprennent pas. Aujourd'hui, les radios sont en train d'abattre un travail extraordinaire parce qu'il y a des conflits inter- et intracommunautaires, il y a des petites crises un peu partout, il y a l'insécurité, il y a tout cela. Mais les journalistes, les amateurs que nous sommes là-bas, en tout cas, abattent tous les efforts 8 jours pour sensibiliser les gens par rapport au bien fondé, par exemple, de l'accord d'Alger, au bien fondé des différentes rencontres qui ont eu lieu dans ces cadres-là pour essayer de ramener la confiance entre les gens, une confiance mise à rude épreuve après, bien entendu, cette crise. Donc il y a pas mal, n'est-ce pas, de situations que les radios aujourd'hui gèrent dans la ville et qui font qu'elles sont sollicitées, surtout par des responsables, pour ces rencontres-là, pour donner de l'information, sensibiliser. On ne pourra pas tout citer ici, mais quand même, je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire sans passer par autre chose, les radios jouent un très, très grand rôle dans le cadre de la paix, de la réconciliation et surtout de la sécurité pour les populations dans la région de Menaka, en particulier où je suis, et même partout.
D'accord. Justement, dans le cadre du processus de paix, quel est le rôle de la radio?
La radio, déjà, comme il vient de le dire, c'est déjà la sensibilisation, l'information, la sensibilisation, l'éducation. Ça, c'est l'un des rôles fondamentaux même d'une radio. Là, au Mali, on sait qu'elle joue ses rôles relativement bien. Mon frère vient de parler déjà de ce que les radios font au Nord en termes de sensibilisation, de mobilisation et tout. Mais là, pour revenir aujourd'hui...
Mais relativement bien, ça veut dire qu'il y a des améliorations.
Oui, il y a toujours quelque chose à améliorer. Il y a toujours des... C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Je dis, pour ce qui concerne la bataille de la quantité au Mali, en termes de radio, il n'y a rien à faire de la quantité. Maintenant, on se bat tous les jours. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de chercher à nous perfectionner par rapport à notre travail de tous les jours. Les radios ne font pas exception à cette règle. Donc, elles sont obligées aujourd'hui, tous les jours, de s'améliorer. Mais force est de reconnaître qu'elles jouent un rôle fondamental dans le cadre même du retour de la paix, de la confiance, de la sensibilisation par rapport aux décisions qui sont prises. Par exemple, aujourd'hui, quand l'État décide de quelque chose, même là, surtout la sensibilisation. Aujourd'hui, le manque de confiance et tout, c'est la radio qui peut jouer un grand rôle dans le cadre du retour de la confiance, le vivre ensemble et tout. Parce que les radios, surtout les radios communautaires, les radios dans les campagnes, dans les villages. Moi, je connais l'animateur qui parle, je lui fais confiance, c'est mon voisin, il parle ma langue que je comprends. Je crois qu'on doit, d'abord, on doit les mettre vraiment à contribution, les radios, très, très sérieusement. On doit les faire travailler assez dans le cadre du retour de la paix. Ça, moi, je crois qu'il faut que l'État les utilise énormément, abuse même des radios par rapport au retour de la paix, à la confiance, au vivre ensemble.
D'accord, nous attendons toujours notre troisième invité qui nous avait confirmé sa venue, Jacary Diaye aussi, du journal L'Espérance. Alors, Mohamed Aguissa Feitan, certains estiment que les radios, certaines radios sont un outil de dialogue, de paix et de tolérance, comme le thème de la journée mondiale cette année, mais d'autres radios aujourd'hui sont devenues un outil de propagande.
Ah oui, ça, il faut le préciser très bien, parce que, comme je l'ai dit dans mon reportage, dans ma chute, j'avais dit, les radios doivent être aujourd'hui encadrées et bien suivies, sinon, elles pourraient être des éléments très dangereux qui peuvent faire plus que 1000 collines au Rwanda. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On a affaire aujourd'hui à des radios où il n'y a que des amateurs. Il n'y a que des amateurs, des gens qui n'ont pas la formation requise, qui ne savent pas traiter l'information, des gens qu'on appelle tout l'État à Bamako, à Mopti, pour distribuer des perdèmes, n'est-ce pas? On fait la formation comme ça, il n'y a pas d'évaluation. On retourne à la maison. Donc, on pense que la radio, c'est comme la rue. Et on parle exactement à la radio comme si on était dans la rue. Or, ça, c'est dangereux aujourd'hui pour nos communautés. Donc, la radio, si on ne fait pas attention, c'est-à-dire que si on ne prenait pas garde, si les décideurs et puis les grands journalistes, n'est-ce pas, les partenaires de la radio, ne prennent pas garde en formant très bien ces amateurs-là, alors on risque de dévier un peu l'objectif qui est justement de réconcilier. On va plutôt détruire. Parce que si vous écoutez des radios, moi, j'en ai écouté ici à Bamako, j'en ai écouté un peu à Gao, j'en ai écouté un peu partout. Souvent, il y a des choses qu'on dit à la radio. Ça fait même peur d'entendre cela. Mais puisque ces gens qui sont de la radio n'ont pas de formation, ils ne sont pas encadrés, ils sont juste là pour venir chercher, n'est-ce pas, le quotidien. C'est des gens qui viennent chercher de l'argent, certainement, peut-être souvent. Donc, si on ne fait pas attention, on risquerait en tout cas de dévier l'objectif de la radio, qui est bien entendu de réconcilier et de ramener les gens à la paix. Donc, on doit faire énormément attention à cet aspect-là. Il faut former les gens, les évaluer. Il ne faut pas seulement se limiter à la formation des animateurs des radios, mais il faut essayer les suivre. C'est pourquoi je salue beaucoup ce que Tamani vient de faire en organisant ce petit concours entre ses correspondants qui a permis à ses correspondants aujourd'hui de s'épanouir. Il y en a peut-être beaucoup dans ces contrées-là qui ont besoin de cela pour s'épanouir. Donc il faut organiser la formation.
Alors, est-ce que vous pensez que cela est un échec des autorités et des leaders dans ce secteur, la radio? Est-ce que vous pensez que c'est un échec des autorités et des leaders?
Oui, vous savez, je ne sais pas s'il faut parler d'échec des autorités ou d'échec des grandes stations qui peuvent, par exemple, nous former. Moi, je pense que tout le monde a sa part là-dedans. Tout le monde a sa part. Aujourd'hui, l'État malien sait qu'il y a des dizaines et dizaines de radios dans ces pays-là. Et aujourd'hui, on est dans une crise. Donc, on doit faire en sorte que ceux qui travaillent dans ces radios soient énormément formés et formation de qualité, bien entendu, pour les aider à ramener la paix. L'autre côté, nous sommes dans des contrées où le chômage amène certains à venir de la radio pour essayer d'avoir de quoi manger. Alors ces gens, ils vont aller chez Monsieur Koné, par exemple, ou bien chez Monsieur Touré, n'est-ce pas, pour prendre de l'argent, et vous venez faire ce que vous appelez chez vous que de la personnalité. Au lieu de venir, n'est-ce pas, pour sensibiliser les gens, non, tu viendras plutôt
pour faire la publicité de quelqu'un d'autre qui c'est hors la loi ça. Ou bien en politique, les politiciens également sont là qui font aujourd'hui que certains journalistes ne font pas bien leur travail. Quand je lis certains articles dans les journaux, quand j'écoute certains journalistes en train de parler à la radio, je me dis, mais ça va pas. Ces gens, ils ont été payés ou bien quoi. Il y a tous ces aspects, donc tout le monde est là-dedans. Chacun doit jouer sa partition pour permettre en tout cas à ces radios-là de faire bien leur travail.
Est-ce pas un rôle de la maison de la presse que vous avez dirigé, Makankoni?
Non, je crois que là, mon frère ouvre un débat qui est extrêmement, éminemment important en réalité. Au-delà de la radio, c'est l'accès. Je crois que j'ai l'habitude d'en parler ici. C'est l'accès, c'est d'abord un, c'est l'accès à cette profession. Comment on devient journaliste au Mali? Qui est journaliste? Qui doit être journaliste au Mali? Comment on détient, on devient propriétaire d'un journal au Mali? Comment on devient propriétaire d'une radio? Aujourd'hui, je crois que depuis un certain nombre de mois, ça va avec la hack et tout, qui essaie de moraliser la délivrance, l'octroi des fréquences et tout. Tu vois, on est resté longtemps. En fait, le mal, il est très profond. Mon frère sait de quoi on parle. On est resté un certain nombre d'années où les fréquences étaient pratiquement délivrées comme des cacahuètes. Chacun avait une fréquence. Il y a encore des fréquences, si je ne m'abuse, qui sont aujourd'hui qui sont distribués mais qui ne sont pas fonctionnels. Donc vous dites que tout ça, ce n'était pas très, très régularisé. Maintenant, l'accès à la profession au Mali, il a parlé de formation, c'est vrai. Qui est journaliste, comment on est journaliste, comment on peut être journaliste. Donc, pour vous dire, c'est pas que... C'est vrai, la Maison de la Presse, toutes les associations ont une part de responsabilité, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Elle fait des efforts. Elle fait des efforts en termes de formation et de perfectionnement. Et je veux dire, la Maison de la Presse a fait beaucoup de formations, les gens peuvent en témoigner et tout, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà de la formation, comme nous l'avons initié avec l'école, pour ne pas les citer, avec l'école supérieure du journalisme de Lille. Il faut des formations diplômantes, de sérieuses formations, pas que des séminaires, comme il l'a dit, où les gens viennent simplement, ils prennent leur perdième, après il n'y a pas d'évaluation, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'ils ont appris derrière? Parce que moi j'ai l'habitude d'organiser ici des séminaires où les gens venaient juste le matin s'inscrire, ils parlaient, ils vaquaient à leurs occupations, ils faisaient des reportages, ils revenaient deux jours après, quand c'était l'heure de payer les perdièmes et tout. Je l'ai dit avec plaisanterie parce que ben, c'est la vérité. Donc ça, c'est très dangereux quand même, c'est de l'argent qu'on met dans la formation. Aujourd'hui, il faut d'abord continuer à régulariser de manière très stricte le secteur. C'est-à-dire, qui doit être journaliste, qui peut être journaliste, comment est-ce qu'on délivre une fréquence radio, comment est-ce qu'on délivre une fréquence télé aussi, on peut en parler un autre jour, comment est-ce que les récipients des journaux sont, comment est-ce qu'on a accès à cette profession, parce que c'est très dangereux un micro. Un micro, c'est excessivement dangereux.
Justement, autant... l'information est-elle indépendante, équilibrée et juste au Mali, l'information qui passe à la radio?
Non, pas lequel radio. Parce que quand on parle de radio aussi, il faut qu'on on dissocie. Est-ce qu'il s'agit de la radio publique,
publique et privée à la fois
et tout. Public, il n'y a pas beaucoup de public. Hein. Si on parle de la chaîne nationale, la radio nationale, il y a quand même un cadre dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Ça, c'est contenu même de leur statut et tout et tout.
Est-ce normal?
Non, ce n'est pas normal. Mais c'est pas normal d'une part. D'autre part, ça n'a pas d'impact négatif sur l'état du pays. C'est ça peut-être qu'on cherche aujourd'hui.
C'est sûr qu'il n'y a pas d'impact négatif.
Non, quand on ne parle pas, c'est-à-dire qu'on ne donne pas toute l'information. Par rapport aux populations, ce n'est pas bon. Mais on ne met pas le feu entre guillemets. C'est-à-dire que le danger, aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, il vient du privé. C'est la presse privée aujourd'hui qui n'est pas assez contrôlée, qui est animée souvent par je dis pas qu'il y a plein de professionnels là-dedans, mais il faut reconnaître qu'on n'a pas assez de, on n'est pas assez regardant sur ce qu'on publie, c'est assez regardant bien sûr, ce qu'on publie, ce qu'on dit et tout et tout. Donc l'information aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a même à la limite, au-delà de ce qu'on dit en termes de non-professionnalisme et tout, on s'auto-censure un peu aussi. Il y a ça aussi. Donc tout ça, c'est dans le cadre un peu de la formation. La formation, bien entendu, on essaie de la contrôler. Certains essaient de se censurer.
Mais non, censure,
on fait des efforts.
Censure au niveau du privé ou au niveau du public?
Oui, du public et du privé.
D'accord. Êtes-vous d'accord avec
moi un peu par rapport aux formations, de vous donner un exemple précis. Vous savez, on a fait pas mal de formations, maladies tropicales, je ne sais pas moi, polio, etc. On nous a formés sur les gens radiophoniques, table ronde, tout ça. Mais il y a une petite formation que une grande formation que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur les fondamentaux du journalisme. Je vais parler sur le couvert de Issa Fakaba qui était parmi ces formateurs-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, cette formation nous a apporté beaucoup. Si j'arrive aujourd'hui à faire des enrobés, c'est grâce à cette formation. Et pourtant, il n'y avait pas de perdem là-dedans. Il n'y avait pas de perdem. Quand les blancs m'appelaient, ils me disaient qu'il y a une formation, ils me disaient qu'il n'y a pas de perdem. J'ai dit, ils m'en foutent de perdem. J'y vais juste parce que je vais fondamentaux du journalisme. Or, je suis parti. C'est que cette formation m'a rapporté aujourd'hui. Dieu seulement l'essai. Il n'y a pas longtemps, dans cette même salle, on nous a donné des trophées. C'est suffisant pour nous pour dire aujourd'hui qu'on est en train d'avancer grâce quand même à une formation. Mais durant les 20 ans que j'ai fait dans les radios, j'ai fait des formations et des formations. Je n'ai jamais vu une formation qui m'a rapporté plus que cette formation. Les gens radiophoniques. Allez-y aujourd'hui dans la radio, vous n'allez pas trouver, rarement dans les studios, dans la radio, vous trouverez quelqu'un qui puisse s'asseoir pour vous, par exemple, présenter la ronde, ou bien diriger un débat, ou bien faire une interview. Ça veut dire que ces formations se font juste, on appelle les gens pour donner les perdèmes, et puis c'est parti, on y va. Et après, il n'y a rien. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Tous qui ont été formés aujourd'hui par ces filles, n'est-ce pas? Je parle encore sur le couvert de Issa Fakaba, sont en train de faire des choses vraiment très intéressantes. C'est
d'accord.
Ça
les formations. Mais est-ce que vous pensez, comme Makankone, qu'il y a plus de problèmes aujourd'hui dans le domaine privé que dans le domaine public?
Plus de
problèmes au niveau du privé qu'au niveau du public?
Bon, je ne sais pas, c'est cette question, je crois que c'est tout connaît qui pourrait répondre à cette question. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour permettre aux gens de faire leur travail. Beaucoup même. Beaucoup et beaucoup. Même s'il y a des gens qui émergent souvent, il y a beaucoup à faire.
Et comment y parvenir? Pardon. Comment y parvenir?
Comment?
Comment y parvenir?
Comment faire?
Oui,
c'est-à-dire que c'est ce que je disais tantôt. Il faudrait essayer d'organiser des formations qui puissent vraiment faire bénéficier les journalistes. Je vous donne un exemple. Allez-y aujourd'hui dans n'importe quelle radio de Bamako ou bien du Nord, amenez les journalistes, dites-leur, amenez Koné, amenez Touré, organisez-moi un débat entre Koné et Touré. Vous allez voir, vous serez dessus. Parce que simplement, parce qu'ils n'ont pas, c'est pas le nouveau pour les faire, mais ils n'ont pas la technique pour les faire. La technique pour les faire n'a pas été apprise pour eux. C'est justement ça. Donc, au lieu d'amener les gens pour les distribuer des perdèmes, quand bien même ils en ont besoin, il faudrait aussi organiser des petits concours entre eux, ou bien évaluer ces formations-là, soit directement dans les studios, ou bien par les petits concours que Tamani vient d'organiser. Ça vous permettrait d'appréhender, bien entendu, ce que vous avez fait en amont et en aval. Mais lorsque vous nous appelez à Bamako, on fait 3 jours, on déjeune bien, les pauses sont très bien, on mange bien, on va avec l'argent, hein, n'est-ce pas? C'est terminé là. Les rapports disent que des gens ont été formés, il y a eu ça, recommandation, tant, mais là-bas, le suivi, l'évaluation, il n'y a rien, ça ne marchera pas. On va former des très mauvais journalistes et on risquerait, n'est-ce pas, au lieu d'aboutir à la paix, d'aboutir à autre chose. Parce que vous savez aujourd'hui que ce que les gens disent sur la radio, j'ai dit très souvent, ça fait très très peur quand j'entends des gens parler de la vie privée. Des gens à la radio, ça fait peur. Ça, c'est un manque de formation, c'est un manque de suivi, c'est un manque de cohérence de ce qu'on est en train de faire pour essayer en tout cas de former ces journalistes-là.
D'accord. Comment avoir une solution à tout ce problème, Makankone?
Il faut d'abord. Ça existe très peu ici. Il faut qu'on ait un tribunal de pairs très fort. Le meilleur tribunal, c'est le tribunal de pairs. C'est que les radios évaluent Tamani, par exemple. C'est-à-dire que le meilleur juge. De Tamani, c'est nous autres confrères et tout. D'abord, ça c'est important. Donc, cette auto-régulation-là, il faut qu'elle existe. On a mis en place le 3 mai dernier une structure ici à la Maison de la Presse. Il faut qu'elle soit très dynamique, très fonctionnelle. Que tous les matins, on se dise, on a une petite réunion, on dise, Studio Tamani a fait ceci, c'est bien, on le félicite. Studio Tamani a fauté, je prends l'exemple de Studio Tamani, parce que je suis là. On dit, ah, M. Touré ou M. Issa Fakaba, il y a ceci, il y a cela. C'est important. Quand vous sentez au-dessus de votre tête une structure, un élément, quelque chose en tout cas qui vous contrôle, ça vous permet de faire beaucoup attention. C'est pourquoi j'ai parlé de différence entre public et privé. Par le public, il a dit tout de suite.
Mais le meilleur contrôleur, n'est-ce pas l'auditeur?
Mais le meilleur contrôleur, c'est d'abord les pères. C'est nous d'abord. Parce qu'on se connaît suffisamment. Et puis moi, ça va beaucoup me frustrer que mon frère ici dise « Ah, Maka, pourtant tu as fauté là. » Ça me fait plus mal que lui me fasse ce reproche, que ce soit quelqu'un de la rue comme ça. Ça, c'est le premier contrôleur. Le deuxième, c'est la régulation de l'État elle-même. On ne peut pas, aucun État sérieux ne peut laisser une radio diffuser comme ça dans les airs sans contrôle. Aujourd'hui, on peut, excusez-moi, dire tout ce qu'on veut, comme il l'a dit, sur une radio, l'État, à la limite, n'est même pas au courant. C'est après coup que peut-être quelqu'un, à travers quelqu'un d'autre, à travers quelqu'un, les informe. Les radios, elles doivent être régulées, elles doivent être écoutées, elles doivent être, pas censurées, mais écoutées, qu'on puisse contrôler, qu'on dise. Lui, il a parlé de vie privée. On n'attendra jamais ce genre de choses sur le public. Encore que le public, il est censuré, ils ne sont pas très, très indépendants. Le privé qui est indépendant est trop indépendant. C'est ça le problème. Le privé qui est indépendant est trop indépendant. Le public qui n'est pas, qui peut dire des choses, qui disons, n'est pas assez indépendant. Donc, malheureusement.
D'accord. Deuxième sujet de ce forum de la presse, politique et religion. Les deux sont-elles compatibles ? Mohamed Agri et Safaitan. Est-ce que politique et religion vont ensemble ?
Bien, question très difficile, mais j'ai tenté de répondre à ma manière. Je ne sais pas si politique et religion vont ensemble, mais j'ai dit dans certains pays, peut-être chez nous, politique et religion peuvent aller ensemble et les politiques et les religions ne peuvent pas aller ensemble. Je vous donne un exemple. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Aujourd'hui, tout le monde sait que tous les hommes politiques, les grands hommes politiques comme Jodé Bamako, ne font pas de la politique sans passer par les marabouts. Il faut aller voir les marabouts pour que les bénédictions. J'aimerais être député, j'aimerais être président. Alors, les marabouts vont se mettre au travail. Et on sait que c'est des gens très sollicités qui ont beaucoup de fidèles derrière eux. Donc, il faut aller chez eux pour essayer d'avoir du monde. Or, en faisant ça, c'est comme si on était obligé de venir en politique. Donc, ça amène des problèmes. L'autre chose, c'est que je crois que dans la constitution malienne, je ne sais pas, il n'est pas interdit à un religieux de faire de la politique. Ce n'est pas interdit. Nulle part, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu un seul article de la constitution malienne qui dit aux marabouts ou bien aux religieux, ne faites pas de politique. Seulement, il faut la faire bien. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, pour moi, non seulement c'est possible, mais ce n'est pas possible si ça devient de l'extrémisme. Les fidèles aujourd'hui, c'est les plus nombreux. Vous avez vu ce qu'ils ont fait la fois dernière au stade du 26 mars. Moi, j'étais pas là. Mais nous, quand on a vu ce monde-là, ça fait peur. Donc, un responsable politique qui n'a pas ce monde-là derrière lui aujourd'hui, je crois qu'il aura peur. C'est pourquoi aujourd'hui, ce sont les hommes politiques même qui poussent les religieux à faire de la politique, quand bien même ils ne sont pas obligés, ces hommes politiques de religieux, de ne pas faire ou de faire. Ils sont obligés de faire si ça ne va pas. Parce qu'en tout cas, je crois que ce n'est pas interdit pour eux de le faire. Mais il faudrait le savoir-faire pour ne pas prendre la politique comme la religion et faire des morts comme certains sont en train de le faire aujourd'hui au nom d'une religion qui ne dit pas. Donc c'est un peu ça.
D'accord. Que pensez-vous de la situation ?
Non, moi, je crois que j'ai aussi donné un avis personnel. Moi, je crois que la politique, à la limite, c'est partout dans le monde. La religion accompagne la politique comme des lignes perpendiculaires. Mais la religion ne vient pas dans le champ politique, comme on l'assiste ici chez nous. La religion n'intègre pas, n'investit pas le champ politique. Mais la religion accompagne le politique. Parce que la religion aussi, c'est la gestion de la cité. La politique, c'est la gestion de la cité. Les deux vont ensemble, mais il ne faudrait pas que l'un investisse le champ de l'autre. Comme c'est le cas ici chez nous, il faut avoir le courage de le dire. Mais ce qui s'est passé chez nous au Mali, c'est que les politiques ont abandonné le terrain que les religieux ont investi. En fait, c'est les hommes politiques chez nous qui sont allés vers les religieux, ils ont couru chez eux, comme si... Parce que moi, je m'explique ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus, à un moment donné, aujourd'hui c'est encore le cas, on est tellement dégoûté de la chose politique au Mali qu'ils n'ont plus ce langage, ils n'ont aucune façon de mobiliser. Ce n'est pas passé par les hommes politiques, les religieux. Ils ne peuvent plus mobiliser. Donc ils sont obligés de passer par les religieux. Et les religieux, en fait, ils ont mal dealé, parce que ces religieux ont compris, se sont dit désormais que ces gens, ils ne comptent que sur nous pour avoir des électeurs. Alors ils ont bien marchandé leur affaire. C'est vrai que c'est pas interdit pour un homme politique, d'un homme religieux de faire de la politique, mais il est interdit aujourd'hui que les mouvements, les associations, tout ce qui est politique, tout ce qui est religieux, fasse la politique à visage découvert, à travers et avec la religion. au nom de la religion. Mais on assiste à ça ici, hein. Les politiques, ils ont désigné un candidat qu'ils ont suivi, qu'ils ont fait élire président. En l'occurrence, c'est l'actuel chef de l'État. En 2013, c'est à la limite les religieux, Sabati, le shérif de Nioro, l'imam Diko, qui ont prêché dans les mosquées, qui ont demandé à ce qu'on vote pour lui. Et les gens votent. Donc, c'est sûr aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, ils croient que c'est eux qui ont fait élire le président de la République. C'est des humains comme tout le monde. À leur place, ils négocient aussi ce travail, cet apport qu'ils ont eu dans l'élection du président de la République. Aujourd'hui, c'est cela. Sinon, aujourd'hui, il faut reconnaître que les champs politiques est carrément investi par les religieux. C'est très, très dangereux. C'est excessivement dangereux, comme il vient de le dire. Parce que, surtout dans le cadre dans le contexte actuel de notre pays, avec tout ce qu'il y a comme insécurité au nord, comme terrorisme et tout, si on ne fait pas attention, si au sud aussi, les religieux commencent à sortir la tête de l'eau, comme ils le font, ils ont l'habitude de le faire. Dieu nous en préserve, c'est dangereux.
Rébellion ?
Ah bon, moi je crois que c'est quand même. C'est pas bon. C'est ça affaiblit l'État. Mm. Ça affaiblit non seulement l'État, et puis ça donne l'impression qu'on n'est plus en démocratie. Parce que ça donne pas l'impression. On va sortir du cadre démocratique normal, et personne ne sera libre. Et vous et moi, on ne pourra plus tenir ces débats régulièrement. Donc c'est dangereux. Il faut que l'État mette le holà dans cette affaire.
Mm. Moi je crois qu'il y a certains calculs qu'on est en train de faire. Il n'est pas dans l'intérêt des hommes politiques aujourd'hui et que, par exemple, les religieux aujourd'hui forment un parti politique. Prenez l'exemple. Si aujourd'hui on vous disait par hasard que Haïdara, Duco, etc. formaient un parti politique, alors ça va faire peur à des grands hommes politiques qui sont là.
Non
seulement il faut les politiser, mais il faudrait faire également en sorte de faire qu'ils n'y viennent pas comme des politiciens, comme des partis politiques.
Ils peuvent pas.
Les calculs, c'est ça.
Ils peuvent pas. Constitutionnellement, c'est interdit. On peut créer un parti sur une base de religieuse. La Constitution interdit ça.
Mais s'ils le font en tant qu'homme en tant que Malien tout court, est-ce qu'ils peuvent le faire ou pas?
Ah bien sûr, c'est que mais sauf qu'aujourd'hui, c'est la région qui les colle à la peau. Sinon, si le parti, aujourd'hui, si Haïdara veut créer un parti politique, a non-connotation religieuse, c'est-à-dire qu'il est parti pour le développement et tout comme ça, la Constitution n'interdit pas. Donc, pour vous dire même ça, c'est possible.
Mais est-ce différent avec ce qu'on a vu, par exemple, comme le cas que vous avez cité en 2013, Sabati?
Non, pas très différent, mais bon, c'est ce que je voulais dire. En fait, la condition d'elle est limitée. Elle dit simplement que c'est interdit de créer un parti politique sur une base à connotation religieuse, ethnique et tout. Mais, donc, comme vous venez de le dire, les gens ils peuvent, comme Sabati, mais Sabati, sauf que ce n'était pas un parti politique, c'était une association religieuse. Maintenant, un parti, les religieux peuvent créer un parti, mais détourné. C'est pas exclu.
Faut-il craindre ça, un parti des religieux au Mali? Faut-il craindre un parti politique des religieux au Mali?
Oui. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça peut amener?
Est-ce qu'il faut craindre cela?
Avec ce que nous voyons aujourd'hui, je crois qu'il faut compter avec. C'est sûr et certain qu'avec ce qu'on voit, avec la déception que les gens ont aujourd'hui, parce que chacun se sent déçu, parce qu'il a voté pour quelqu'un, il n'a pas fait son travail, ou bien sa localité a été négligée, ou bien l'islam a été, d'une certaine façon, n'est-ce pas, transgressé, je crois qu'il faudrait s'attendre dans les années à venir à une création des partis politiques. Il s'agirait de savoir maintenant comment il faudrait s'y mettre et comment ça va se faire. Parce que tout le temps, on veut empêcher cela. On veut empêcher cela, quand bien même ce n'est pas la constitution qui le dit. Mais on veut l'empêcher. Mais je sais qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec la pression que les musulmans sont en train de faire, les religieux sont en train de faire, c'est sûr certain que dans les années à venir, on risquerait d'avoir un parti islamique. Maintenant, on n'en connaît pas les conséquences.
Quelles peuvent être les conséquences?
Les conséquences, c'est l'islamisation du pays, c'est la charia. C'est très simple, hein. C'est, puis tout le monde est au courant de ça. Un parti islamique qui vient au pouvoir, c'est la charia, c'est la démocratie qui va à volo, c'est les droits qui sont. Tous les droits fondamentaux qui sont violés, tout quoi. C'est tout. C'est l'islam, c'est la charia, c'est la constitution, c'est le Coran. C'est un parti islamique.
Alors, comme solution aujourd'hui, faut-il séparer les deux?
Les deux ne devaient même pas être liés, en fait. Donc, il faut obligatoirement les séparer. Mais ça, c'est un rôle. Il faut qu'on ait déjà un État très fort.
Il faut que l'État joue sa partition, joue son rôle. Il faut que l'État mette tout le monde à sa place, fasse jouer à tout le monde son rôle, explique clairement, dise leurs limites aux religieux, dise leurs limites aux hommes politiques, tout et tout. Il faut que les religieux, parce que depuis, ils ne s'en cachent plus aujourd'hui. L'autre jour, ils ont même menacé, c'est-à-dire le président de la République, ils ont mis en demeure, ils ont posé un ultimatum au président de la République par rapport à son premier ministre. Donc quand les régions vont jusque sur ce terrain, maintenant on va voir la suite que ça va donner. Et ils sont allés jusqu'à dire si jamais le président n'entend pas leur message, comme ça il va l'entendre autrement. Mais ça c'est des propos que l'État ne doit pas accepter. C'est des propos contre lesquels l'État doit immédiatement sévir, en tout cas se faire entendre. Mais on a encore vu, rien vu encore.
Quelle solution? Ok. Nous attendons toujours le troisième invité, Diakari Diaye aussi de l'Espérance. Il nous avait confirmé sa participation. Alors, le troisième sujet de ce grand dialogue à Menaka, le retour des Fama à Andérabukane après 7 ans. Est-ce que cela va changer quelque chose aujourd'hui, le retour de l'armée à Andérabukane?
Ah oui, évidemment. D'abord, permettez-moi de faire un petit historique parce que, comme vous le savez, en janvier 2012, lorsque les mouvements armés rentraient à Menaka Andérabukane, l'armée ne disposait presque de rien. Alors, il existait un seul camp à Andérabukane, frontière avec le Niger, qui n'avait presque rien qu'une crisière. Alors, l'armée est obligée donc de reculer vers le Niger, de recirculer vers le Niger, et depuis lors, elle n'est jamais revenue. Le lundi passé, l'armée malienne est rentrée avec puissance à Andérabukane, des dizaines et des dizaines de véhicules de Fama, de la MISMA, de Barkhane, ont donc pris la direction d'Andérabukane. Et ces gens ont été accueillis avec une grande ferveur, n'est-ce pas, en pompe, parce que les gens s'y attendaient. Autre chose qu'il faudrait signaler, et un peu après le départ de cette armée, il ne restait presque personne à Andérabukane. Aujourd'hui, les gens sont en train de revenir. Et ça va encore encourager le retour de l'armée, va encore encourager ces gens-là à revenir pour faire chez eux. Parce que c'était les mouvements armés qui étaient là, ils ne disposaient pas également des grands moyens pour sécuriser la population. Mais maintenant que l'armée est là-bas, avec Barkhane, avec MISMA, ça donne une certaine confiance aux gens. Non seulement ceux qui sont déjà installés là-bas, qui sont revenus, ceux qui n'ont pas quitté, et ceux qui sont en train d'hésiter, qui sont par exemple au Niger, en Algérie ou au Burkina, et qui ont quitté depuis 2012. Il s'agira maintenant de renforcer cet acquis. Il s'agira de donner à ces forces armées, parce qu'il ne servira à rien d'envoyer, n'est-ce pas, des gens à Andérabukane sans qu'il n'y ait des moyens valables ou bien qu'ils soient dans les conditions pour essayer de faire leur travail. Parce que ceux qui ont manqué de tout le temps pour cette armée, j'ai écouté un député une fois qu'il a dit, le Mali a toujours négligé la sécurité dans les régions nord. Et ça, on l'a vu en 2017 parce que nos militaires étaient obligés de replier, même pas parce que ce n'était pas des hommes, mais parce qu'on n'avait rien pour combattre l'ennemi. Aujourd'hui, si l'armée retourne à Andérabukane, je crois que c'est un grand soulagement. Et déjà, on est parti, en tout cas, pour sécuriser la zone dans laquelle il y a eu pas mal d'assassinats en masse.
Ce retour de l'armée va-t-il pouvoir sécuriser la zone?
Je crois déjà qu'il ne faudrait pas que ce soit le retour, comme le retour de l'armée à Kidal. Ça, c'est important. Ça ne sert à rien, il a touché un mot qui est important. Ça ne sert à rien d'envoyer 1000, 10 000, quel que soit le nombre de militaires à Menaka et les parquer, les faire contrôler par la MINUSMA, Barkhane et tout, s'ils ne sont pas libres de leur mouvement, s'ils ne peuvent pas sécuriser le territoire malien. Je crois que ce n'était pas le cas. Et moi, je crois que c'est très salutaire, cela. C'est d'abord encourageant, d'abord parce que nous, ici, déjà, au sud, ça nous renforce, ça nous rassure par rapport au Nord, où nous avons aussi des parents là-bas, c'est des Maliens comme tout le monde. C'est bien déjà qu'on sache que cette partie, Andérabukane, qui est vraiment une ville qui commence à devenir une ville martyre avec l'assassinat de ses élus et tout, si aujourd'hui l'armée est à Menaka, je crois que c'est, disons, à Andérabukane, je crois que c'est une excellente chose. Ça compte, c'est une victoire de plus, c'est encore un territoire, une souveraineté acquise de plus. Ça, il faut saluer cela, il faut saluer aussi tous ceux qui ont contribué à l'arrivée de l'armée et à cela. Mais je crois que c'est important déjà pour la paix, pour la population. Ça rassure les Maliens.
Il y a un aspect très important qu'il faudrait ajouter. Comme vous le savez, l'administration aujourd'hui n'est pas à Menaka. L'administration n'est pas à Menaka. Tous les préfets se trouvent avec le gouverneur dans la ville de Menaka. hors André Boucan est à 95 km. Aujourd'hui, lorsqu'on a posé la question au gouverneur en début d'année, est-ce que l'armée va rejoindre André Boucan, ils avaient dit que l'État était en train de travailler à faire en sorte que l'armée rentre André Boucan, ne serait-ce que pour permettre à l'administration de s'installer finalement. Le préfet aujourd'hui là à Menaka, mais dans les jours à venir, certainement, il va aller s'installer à André Boucan parce que l'armée malienne est là, les autres services vont reprendre, et, n'est-ce pas, et les gens vont bénéficier, n'est-ce pas, des activités des services sociaux de base, et puis la vie va prendre son cours. Donc ce serait très très important aujourd'hui que l'armée rejoigne André Boucan, mais je l'ai dit, je le répète, il faudrait vraiment y mettre les moyens pour permettre de bien sécuriser, parce que c'est des zones très 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 stériles, c'est des zones où tout peut arriver, parce que les armes circulent comme des chocolats, quoi, je dirais, comme des pains. Donc on n'est pas d'abord dans la phase véritablement de DDR, et il faut seulement donner les moyens pour permettre à l'administration de retourner et faire vraiment son travail.
Quelle est la réaction des groupes armés par rapport à ce retour de l'armée?
Bien entendu, les groupes armés ont longtemps, en tout cas à Menaka, tous les groupes armés ont souhaité que l'État fasse son travail dans le cadre de l'accord, n'est-ce pas, en accélérant les DDR. Or, dans cette série d'actions, il y a justement le retour de l'armée, n'est-ce pas, à André Boucan. Les groupes armés ont toujours travaillé avec les forces armées et de sécurité à Menaka, n'est-ce pas, ils vont encore les faire à André Boucan, les patrouilles mixtes qui se font. Chaque fois qu'il y a, par exemple, un événement malheureux, ce sont les groupes armés, les FAMA, l'administration Barkhane, qui partent ensemble. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les groupes armés vont travailler avec les forces armées malienne pour sécuriser les populations, parce que c'était eux qui étaient là-bas, c'est eux qui assuraient cette sécurité. Aujourd'hui, ils auront encore plus de moyens, ils auront encore plus de volonté avec l'arrivée des forces armées pour aller les faire. Bien entendu, il ne faut pas qu'on pense aujourd'hui que rien ne va entre les groupes armés et les forces armées et de sécurité à Menaka. Quand même, c'est des gens qui se sont affrontés à un moment donné. Aujourd'hui, je crois que tout le monde, je pense, est dans la logique de l'accord d'Alger, et on a oublié justement le passé. Et on espère que ça va continuer comme ça.
D'accord. Ce retour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix. Est-ce que c'est une grande avancée aujourd'hui?
Absolument. Et tout ce qu'on peut mettre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord et tout est à saluer. Moi, je crois que pour ce qui concerne, pour répondre un peu à une de vos questions précédentes qui ne m'a pas été posée, c'est vrai, c'est le rôle des groupes armés. Je crois qu'il faut saluer le rôle d'un de ces ex-groupes, c'est le MSA, de Moussa Gacharatman. C'est une dissidence de la CEMA, mais qui contribue beaucoup à aider l'État, qui aide beaucoup l'État, mon frère en sait quelque chose, il peut le confirmer, qui aide beaucoup l'État dans le cadre du retour de la République, du pays, des autorités, et qui a beaucoup travaillé dans le cadre du retour de l'armée à André Boucan et tout. Donc, pour vous dire, c'est une avancée à saluer dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Surtout que souvent, on ne sent pas que cette mise en œuvre avance beaucoup, les gens reprochent à certaines choses. Mais là, c'est cela. Et puis le Maroc et tout. Tout ce qui concerne le retour de l'armée au nord et qui concerne la présence de l'État, moi, je crois que c'est quelque chose à saluer. C'est bon, déjà même pour l'image du pays, pour l'image de la mise en œuvre de l'accord.
D'accord. Ce retour rassure-t-il les populations? Est-ce que les populations sont rassurées par ce retour de l'armée? Est-ce que les populations sont rassurées par ce retour de l'armée à Menaka?
Ah oui, ça c'est évident. Les populations sont vraiment rassurées, parce que je vous dis, quand nous on a appelé André Boucan pour demander comment les populations ont accueilli justement les FAMA, on a demandé là-bas à un confrère, on nous a dit que les gens étaient là-bas parce qu'ils sont partis le matin, ils sont arrivés tard dans la soirée. Mais les gens étaient là pour les attendre. Et les gens ont même commencé à s'organiser pour essayer de voir comment il faudrait les aider à s'installer, parce que c'est un camp qui est délabré. Même en 2012, c'est un camp qui est délabré, les logements, ça n'existait presque pas. Même à Menaka aujourd'hui, les femmes sont, et c'est ce qui est malheureux, n'est-ce pas? Si vous voyez le logement de ces hommes-là, vous allez vous demander dans quelles conditions ils sont en train de travailler. Donc les populations vont les aider à s'installer, parce que les populations savent que si l'armée est là-bas, elles sont rassurées et que la violence va diminuer, même si ce n'est pas possible en tout cas, elle va diminuer, elles seront en tout cas en sécurité au moins dans la ville. Même si André Boucan n'a pas été beaucoup secoué par les différents conflits et les crises qui ont lieu à l'ouest aussi de Menaka, mais André Boucan quand même avait besoin de sécurité, parce que les gens ont besoin de voyager voyager pour aller au Niger voisin, parce que André Moukane vit du Niger, pour aller au Niger voisin, pour aller dans leur champ. Donc, tant qu'elle remet là-bas, je crois que ça reste bien les places. Et elles l'ont démontré à travers l'accueil qu'elles ont réservé justement à ces hommes-là quand ils sont rentrés à Ménaka.
Les aider à s'installer, mais est-ce qu'ils sont prêts à les aider à sécuriser la zone en s'impliquant quand vous parlez, par exemple, de la circulation des armes?
Je pense que lorsqu'on accueille quelqu'un en pompe, lorsqu'on est content de recevoir quelqu'un, il faudrait être également disponible pour l'aider à faire son travail. On ne peut pas accueillir quelqu'un comme ça en pompe, n'est-ce pas, quelqu'un qu'on n'a pas vu il y a 7 ans et qui rentre tout juste chez toi. Il faut l'aider également à faire son travail. Je n'affirme pas, mais c'est peut-être un message qu'il faudrait lancer, parce qu'il faut quand même les aider, parce que si ces gens ne sont pas aidés, ils ne pourront pas faire leur travail malgré tous les moyens qu'on mettra à leur disposition.
Certains pensent que la circulation des armes, qui est devenue aujourd'hui un moyen pour que les gens puissent se nourrir, qu'ils ne vont pas accepter d'abandonner cela s'ils n'ont pas d'autres boulots.
Mais absolument, mais certains, beaucoup vont monnaie en tout cas le fait de se départir de leurs armes, parce que il y en a qui vivent de ça. Il y a beaucoup qui vivent de ça, les attaques et tout, c'est parce qu'ils ont des armes. Donc c'est maintenant, mais c'est à l'État, c'est aux partenaires comme la MINUSMA, dans le cadre du DDR et tout, de bien motiver les gens, de les sensibiliser, à ramener les armes, d'expliquer qu'on ne détient pas une arme comme ça, où il y a une autorisation. Et puis, il y a des choses sur lesquelles il faut être très exigeant, il faut être dur, il faut employer le langage de la vérité, à la limite, le langage de la force. Une arme, on ne la détient pas comme ça. Une arme, il y a une autorisation et tout. Et puis tant que, c'est ça aussi le problème dans le Nord, tant que les armes vont continuer à circuler, tant qu'on n'interdit pas et tant qu'on ne met pas fin à cette possession illégale d'armes de guerre, on peut pas, on a beau envoyer les femmes, on a beau tenir des réunions, des forages, ça ne servira à rien. Il faut travailler sur la récupération des armes.
D'accord. Mohamed Aguissa Feitan, à Ménaka, dans ces conditions, quelle est la situation scolaire? Est-ce que les écoles sont ouvertes? Est-ce que les enfants vont à l'école?
Bien. Vous savez, l'école dans la région de Ménaka, j'allais dire, tourne au ralenti. Parce que depuis 2012, il y a des enseignants qui ont quitté Ménaka depuis 2012. Ils ne sont pas rentrés au moment où je vous parle. Il y en a qui sont installés à Bamako, d'autres se sont fait imiter. Donc, les quelques enseignants qui viennent ne peuvent pas faire le travail en plein temps. Vous allez trouver des écoles, par exemple, dans la ville où il y a des enseignants. D'autres écoles sont fermées. Personne aujourd'hui ne pourra, par exemple, enseigner à 45-50 km de Ménaka. Personne n'osera s'aventurer à partir d'enseignants là-bas. Parce qu'il y a, non seulement il y a personne, mais aussi il y a ce manque d'enseignants. Autre phénomène extraordinaire, avec les grèves qu'on a aujourd'hui. Avec les grèves qu'on a aujourd'hui, déjà, il y a une école qui est déjà malade. Ensuite, il y a les grèves qui s'y ajoutent. Je crois qu'on ne peut pas dire, moi je ne peux pas aujourd'hui affirmer en tant que journaliste, en tant qu'animateur, dire aujourd'hui que l'école marche à Ménaka. L'école ne marche pas du tout à Ménaka. Il va falloir, n'est-ce pas, encore s'y mettre, comme d'ailleurs à travers tous les pays, pour que ces écoles qui ont formé ouvrent. Parce qu'il ne faut pas seulement se limiter au fait que l'école marche à Ménaka ville, à Andramboukane ville, et même là dans certaines écoles, pour dire aujourd'hui que l'école n'est pas malade à Ménaka. L'école est vraiment malade et il faudrait s'y mettre vite. Sinon, on est dans un très grand retard. Beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas, sont à Bamako, à Gao, partout, et ils ne partent pas enseigner. Ni l'État, ni les partenaires, ni les parents d'élèves ne s'y mettent pour que ces malheureux enfants qu'on est en train de punir aujourd'hui, même sans les grèves, puissent quand même être enseignés. Et c'est ça le hic. Si on ne prend pas de disposition par rapport à ça, faire en sorte que ces enseignants reviennent, d'une manière ou d'une autre, former ces enseignants, je crois qu'on va compter dans...
Vous avez parlé des enseignants. Est-ce que les autorités scolaires sont sur place aussi?
C'est justement ça le problème. Aujourd'hui, si l'administration n'est pas là-bas, l'enseignant ne peut pas partir. Je vous parle, par exemple, non, le cas d'Armen. D'Armen, aujourd'hui, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas de préfet, il n'y a rien. Mais l'enseignant, s'il ne voit pas le sous-préfet ou bien le préfet à Dermen, il ne va pas lancer à Dermen, il ne va pas aller à une écart. Mais on est en train de forcer la main aux enseignants pour qu'ils partent enseigner là où il n'y a pas d'administration. Et je pense que là encore, ce n'est pas possible. Parce que tant que l'enseignant ne va pas le préfet ou bien l'homme en tenue du Mali pour les sécuriser, il ne pourra pas aller enseigner ailleurs, il ne peut pas le faire. Ça aussi, c'est un problème auquel il faut trouver une solution.
Que vont devenir ces enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école aujourd'hui?
Mais ils vont payer pour une situation pour laquelle ils n'ont rien fait. dans la réalité, parce que vous savez que la situation qu'on traverse aujourd'hui, ils n'y sont pour rien, absolument rien du tout, sauf qu'il y a des gens qui ont cru bon de prendre des armes, de mettre notre pays dans une situation difficile, de faire fuir les gens, de faire fermer les écoles, d'hypothéquer l'avenir de tous ces enfants. C'est un grand nombre d'enfants, c'est pas qu'à Ménaka simplement. Donc c'est ça, c'est tout, ils vont payer pour des gens qui, à la limite, ne savent même pas ce qu'ils faisaient. Maintenant, comme il a dit, il est important aujourd'hui que les zones soient sécurisées pour que l'administration revienne. Moi, enseignant, je crois que le Premier ministre l'a dit une fois, moi, enseignant, je n'irai pas à Tiedemann si je sais que c'est pour mettre ma vie en danger. Il faut que les gens sachent que l'État qui est là pour nous protéger tous est présent. L'important, c'est cela. Il faut commencer d'abord par sécuriser les zones, par ramener les forces de sécurité et ramener l'État. Et puis les restes vont suivre immédiatement.
Vu la situation, est-ce que vous avez espoir que ces enfants vont pouvoir aller à l'école en 2019, puisqu'on est à 4-5 mois de là?
Non, pas cette année. Je crois que c'est déjà gâté, quoi. Permettez-moi l'expression. Mais il faut travailler à ça. Je crois que la situation s'est relativement améliorée depuis il y a un an ou deux. Maintenant, il faut continuer à travailler à ça, il faut trouver des solutions alternatives, même ne serait-ce que travailler avec les partenaires pour sécuriser les écoles, parce que c'est aussi l'avenir du pays qui se joue là.
D'accord.
C'est extrêmement important.
Avez-vous espoir que l'école va reprendre cette année à Ménaka?
Espoir, non. Je n'ai pas espoir, parce qu'avec ce qui se passe actuellement, je n'ai pas espoir que l'école va encore marcher à Ménaka durant ce moment. Non, vraiment, je n'ai pas d'espoir.
D'accord.
Personnellement, je n'ai pas d'espoir, parce que la situation est vraiment difficile. Très, très difficile pour les enseignants, les peu d'enseignants qui sont là-bas. Je n'ai pas du tout espoir. Faire semblant d'avoir espoir, mais en fait, moi, en tout cas, je n'ai pas espoir.
Et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Merci à nos deux invités, Makan Kone de la Nouvelle Libération, Mohamed Aguissa Feitan de la Radio Adar de Ménaka, Jakarija Yossi de l'Espérance, qui nous avait confirmé sa participation, n'est pas venu. À vendredi prochain pour un nouveau forum de la presse. À la régie audio, Mamadou Ouattara, régie vidéo assurée par Mamadi Keïta.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Dumaoudi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.